réaffirmer que nous espérons faire.
Pourquoi tu confirmes là encore?
Parce
que.
Oui,
que l'usage que nous allons faire de ces enregistrements que nous faisons en ce moment,
oui.
C'est entièrement question de recherche, pédagogie, et que nous n'allons pas nous en servir, enfin.
Oui, oui, bien sûr.
De manière
commerciale. Non, j'aime autant. Oui, bien sûr.
Mais si ultérieurement vous permettiez que les étudiants, par exemple, écoutent ce que vous dites.
Par secret.
Bon.
Non, ce qu'il faudrait, je pense, c'est que vous posiez tout de même quelques questions pour que ce que je vous dise réponde à ce que vous-même recherchez pour votre enquête. Parce que l'économie d'Orléans, c'est une chose qui est. C'est un sujet un peu vaste.
Oui, bien sûr. Oui. On avait pensé vous demander au début, puisque. Nous avons des étudiants qui ne connaissent absolument pas la vie en France. Oui. Si vous pouviez peut-être commencer en expliquant le fonctionnement d'une chambre de commerce.
Oui, ça c'est plus facile déjà, oui.
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 Alors,
c'est beaucoup plus précis. Ben, les chambres de commerce ont été créées en général au début du 19e siècle par un décret impérial. Parce que, au vide suscité par la crise révolutionnaire qui avait détruit les anciennes corporations, il fallait substituer une organisation nouvelle qui corresponde à cette centralisation et au découpage administratif qui avait été institué en France par le consulat et l'Empire. Et c'est ainsi que, dans chacun des départements nouvellement créés, on a constitué un organisme économique qu'on a appelé la chambre de commerce. Je crois me rappeler que la nôtre doit avoir été créée en 1804, quelque chose comme ça. Ces chambres de commerce sont composées de membres élus par tous les commerçants et industriels patentés, c'est-à-dire inscrits au registre du commerce et payant une patente à l'intérieur du département du Loiret, comme dans tous les départements où il n'y a qu'une seule chambre de commerce. Dans les départements plus importants, comme dans le Nord, il y a plusieurs chambres de commerce et alors les membres sont élus par arrondissement. On s'oriente généralement vers une seule chambre de commerce par département. Pendant longtemps, les membres des chambres de commerce ont été élus à l'intérieur de catégories professionnelles. C'était telle ou telle profession qui était représentée par tant de membres. Mais on s'est vite aperçu que cette façon ne correspondait pas à la réalité économique. Parce que, par exemple, dans le bâtiment était autrefois représenté par un très grand nombre d'entreprises. Aujourd'hui, il y a peu d'entreprises, mais dont chacune emploie un grand nombre de personnes. Aussi, depuis quelques années, on a substitué à cette représentation professionnelle une représentation qui tient compte du nombre de salariés des entreprises des différentes tranches, n'est-ce pas ? Et nos 21 membres titulaires, n'est-ce pas, sont élus suivant la catégorie à laquelle ils appartiennent et qui n'est basée que sur le nombre de salariés. C'est ainsi que dans une même catégorie maintenant peut être élu un entrepreneur du bâtiment de travaux publics siégeant à côté du directeur d'une grande affaire commerciale. Il y a donc 21 membres titulaires qui sont élus pour 6 ans, n'est-ce pas, dans les chambres de commerce. Le président, il se choisit un président, qui est en ce moment le président M. Roger Leguet, qui est un industriel du carton, et qui lui est élu pour 2 ans. Mais son mandat peut être renouvelé 4 fois. Ces 21 membres ne siègent pas seuls à la Chambre du commerce. À leur tour, ils appellent 21 autres collègues, qu'ils choisissent eux-mêmes, dans deux buts. D'abord, de remplir les vides que le jeu des élections n'aurait pas réussi à combler, et dans un autre but, de former des gens plus jeunes aux responsabilités consulaires, qui un jour ou l'autre pourront se présenter en tant que membres titulaires. Ces 21 autres membres, lorsque la Chambre de commerce est de matière, ne prennent pas part au vote, mais leur avis est écouté dans les délibérations. Voilà comment est constituée une chambre de commerce. Alors, que fait la chambre de commerce? Eh bien, elle a à la fois une action d'ordre général et des actions, elle peut engager des actions d'ordre particulier. Ces actions d'ordre général sont en somme la discussion des projets de loi avant qu'elles ne soient votées, qui ont un caractère économique ou qui peuvent avoir une influence sur l'économie. Elles attirent l'attention du gouvernement par des vœux sur les sujets qui leur paraissent les plus importants pour le devenir du département ou de la région. Elle s'associe à des mesures d'ordre plus général. Par exemple, dernièrement, elles se sont intéressées à la promulgation de la loi sur l'eau et à la création des organismes qui en ont résulté, sur un plan général. Elles discutent les mesures fiscales et en proposent à leur tour, qui lui paraissent plus justifié, moins préjudiciable à l'expansion économique. Mais les chambres de commerce peuvent également s'intéresser à des sujets particuliers. Par exemple, elles peuvent entreprendre des programmes de construction d'immeubles. Elles pourraient, si le cas se présentait, prendre en main la construction de routes. Cela s'est fait dans d'autres chambres de commerce pour des routes à péage. Elles peuvent réaliser des zones industrielles, comme nous le faisons actuellement. Nous en avons réalisé 3 zones industrielles de façon à créer des centres d'emploi pour une population qui se développe. Enfin, elles ont un éventail de possibilités extrêmement large. Je ne vous en cite que quelques-uns parce que tous n'intéressent pas toutes les chambres de commerce. Mais suivant l'activité du département, elles peuvent prendre une part administrative et financière dans des projets et des programmes.
Est-ce que je pourrais vous demander, depuis qu'Orléans est chef-lieu de la région du centre, est-ce que la chambre de commerce d'Orléans ou du Loiret joue un rôle régional?
Eh bien, elle contribue à jouer un rôle dans le cadre d'une action régionale. J'aurais d'abord dû vous dire que depuis quelques années, les chambres de commerce étaient devenues chambres de commerce et d'industrie.
Oui.
Ça, j'ai omis de vous le dire, parce que il s'était trouvé que l'activité commerciale, qui était l'activité prépondérante lors de la constitution des organismes consulaires, l'activité de fabrication étant alors plutôt dans des mains artisanales, ces fabrications artisanales sont restées sous l'obédience des chambres des métiers, et la chambre de commerce est devenue, elle, chambre de commerce et d'industrie. Alors, pour répondre à votre deuxième question, oui, en effet, il existe maintenant dans toutes les régions économiques des chambres de commerce régionales. La nôtre s'appelle Chambre de commerce régionale Centre. Elle est présidée par M. Diou, qui est président de la Chambre de commerce et d'industrie de Tours. Son siège administratif se trouve encore à la Chambre de commerce de Bourges, parce que le président Roger Clémenceau était président de la Chambre de commerce régionale et président de la Chambre de commerce de Bourges. Il est possible que, dans un désir d'efficacité et pour répondre à des nécessités géographiques, le siège de la Chambre régionale de commerce de la région Centre se transporte à Orléans. Dans ce cas, le service sera, comme il est assuré actuellement de Tours, sera dirigé par M. Siboni, qui a été nommé secrétaire général de la Chambre de commerce régionale, et à ses côtés, moi-même, j'assurerai des services d'exportation et d'importation de propres, intéressant les six départements. Comme je le fais en ce moment ici pour le Loiret allemand. Ouais.
Est-ce que vous trouvez en tant qu'économiste que les limites de la région sont bien tracées par l'économie ?
Eh bien, effectivement, les limites de la région ne correspondent pas strictement à une entité géographique.
Non.
D'une part. D'autre part, il s'exerce sur deux des départements de la région, l'Eure-et-Loir et le Loiret, une attraction parisienne intense. D'autre part, il existe au sud de la région deux départements, le Cher et l'Indre, qui sont séparés des trois autres par les plaines de Sologne, qui constituent tout de même un certain no man's land, et ces régions qui ont donné, plus que les autres départements, son nom à la région Centre, sont effectivement, elles, beaucoup plus incorporées, si vous voulez, au centre de la France que nous-mêmes. Ceci étant, il apparaît que précisément la position du Loiret, du Loiret-Cher et de l'Indre-et-Loire, au long du couloir de la Loire, et entre ces régions nord attirées par Paris et sud attirées par le Centre, permet d'établir, de jeter un pont, sinon, et entre les régions qui auraient été, qui sont hétérogènes et qui se créent par des contacts humains assez remarquables, des liaisons qui se resserrent tous les jours. Et que cette région qui n'avait pas d'unité, certainement l'apprend petit à petit. Parce que il se trouve que cette attirance de Paris sur le Loiret et sur l'Eure-et-Loire n'est pas uniquement bénéfique.
Non.
Paris ne fait pas qu'apporter, il absorbe aussi. Et il absorbe notamment la plus grande richesse, il absorbe les hommes. Et nous nous apercevons que nous devons nous défendre contre cette absorption, en cherchant à maintenir le plus possible dans notre orbite les éléments intéressants qui jusqu'ici ont trop tendance à se concentrer à Paris et à déserter en somme notre région. De l'autre côté, au sud, les régions de l'Indre et du Cher seraient trop éloignées de ce marché de 12 millions d'habitants que va constituer la région parisienne s'il n'y avait pas entre elles un relais que nous pouvons parfaitement constituer sur le plan économique sous forme d'entrepôt, sous forme de liaison humaine. Si bien que par le jeu des circonstances, eh bien, il se crée au centre de la France une sorte d'unité économique tout de même qui, partant de bases assez artificielles, se renforce un petit peu tous les jours.
Alors, vous voyez Paris surtout comme une concurrente?
Je vois Paris à la fois, bien sûr, comme un marché très intéressant pour notre économie, mais également comme un concurrent dans la mesure, n'est-ce pas, où il absorbe les intelligences dont nous avons absolument besoin pour développer notre avenir.
Et comment donc faites-vous pour garder ici ces intelligences dont vous parlez?
Eh bien, nous débrouillons assez mal.
Oui.
Nous débrouillons assez mal parce que puisque vous allez faire des recherches ici pendant des mois, pourriez vous adresser à la République du Centre, qui pendant plusieurs années a publié une chronique, les Orléanais à Paris. Et vous verrez que ces Orléanais à Paris, ce ne sont pas des moindres, et qu'il est bien dommage que nous ayons été privés de leur intelligence, de leur salaire, de leur famille. Et nous allons essayer certainement de pallier cet inconvénient, non pas en rattrapant de force, que nous ne saurions pas faire, nous ne voudrions pas faire des gens qui sont partis, mais en développant des postes analogues. Et la création à Orléans d'une université n'est pas étrangère à ce souci. Donc, le but a été de former des jeunes à des disciplines supérieures et de placer à côté d'eux, à côté de l'université, des éléments industriels de recherche qui aient eux aussi besoin de s'appuyer sur les équipements culturels et intellectuels de la faculté pour développer leur recherche dans une ambiance humaine convenable. Il est donc absolument nécessaire que, à côté de cette université qui, je pense, sera réussie, se crée une zone industrielle où se concentreront des centres de recherche privés ou publics, et qu'il y ait ainsi une liaison université-industrie solide.
Vous croyez que c'est le côté recherche qui compte surtout et non pas le développement de nouvelles industries, l'implantation de...
Tout compte, bien sûr, mais pour nous, le côté recherche compte plus parce que nous n'avons pas de main-d'œuvre disponible en grande quantité.
Ah.
Nous avons réussi jusqu'ici à employer toute notre main-d'œuvre, mais précisément en l'employant souvent dans des usines qui étaient télécommandées par Paris. Et par conséquent, dans des usines qui n'implantaient pas à Orléans le personnel cadre. Alors, comme on ne peut pas espérer un retour en arrière au moins rapide, il faut que nous nous orientions vers autre chose et les centres de recherche nous paraissent tout désignés. Puisque alors, eux emploient cet effectif de cadre que nous cherchons à employer et à développer ici.
Quelle sorte de nouvelles industries ou de nouvelles entreprises donc est-ce que vous voudriez voir s'établir ici, à part
les centres de recherche?
Les centres de recherche.
Ben, Ça, c'est assez difficile à venir à dire à partir du moment où je vous ai dit qu'au fond, nous n'étions pas tellement riches en main-d'œuvre. Mais enfin, il faut penser qu'il y a des jeunes classes qui arrivent, qu'il y a des transformations dans l'industrie. Alors, je pense que sur le plan électrique et électronique, nous sommes largement pourvus. Très largement pourvus. Sur le plan pharmaceutique, ça vient. Dans le laboratoire Servier, le laboratoire Sandoz, d'autres laboratoires encore. Sur le plan des industries chimiques, avec Michelin, nous sommes également bien placés. Peut-être transformons-nous insuffisamment les produits agricoles. Et dans une époque où il est difficile de vendre les fruits et les légumes, serait-il intéressant de voir se développer la transformation et la conservation des produits agricoles?
Oui, vous nous avez dit, je crois, la dernière fois que la région du centre étant surtout agricole.
Oui.
L'économie est en quelque sorte liée à l'agriculture.
Elle est liée à l'agriculture et je pense que pour être solide, elle doit rester liée à l'agriculture. Oui. Notre ambition serait de vendre nos produits à l'étranger à l'état le moins brut possible, si vous voulez. Pour vous en donner un exemple, il est plus intéressant chez nous certainement de développer la culture du blé dur pour le transformer en biscuit. On en transformait la farine en biscuiterie. Que de développer la culture du béton dont on a déjà pléthore et qu'il faut envoyer à des prix internationaux qui ne sont pas intéressants.
Pourrait-il s'agir de manque de main-d'œuvre? Est-ce qu'en Inde, on ne pourrait pas faire davantage appel à la main-d'œuvre étrangère?
Nous faisons beaucoup appel à la main-d'œuvre étrangère. Beaucoup. Pensez que dans l'augmentation de population active annuelle du département, qui est d'environ 5000 personnes par an, il entre 1000 étrangers introduits à titre permanent. Alors, je ne pense pas qu'un pays puisse raisonnablement aller au-delà de 20%.
Vous croyez que ça pourrait avoir des conséquences néfastes hein?
La France est vaste, mais si on examine un pays comme la Suisse, ce danger est présent à leur idée. Alors, ce n'est pas la peine d'aller au-devant du danger, lorsque soi-même, on n'est quand même pas sûr, on n'est pas certain d'employer tous ses enfants. Hein. On ne refuse personne, mais enfin, on fait employer les nôtres.
Est-ce qu'on peut vous demander comment vous voyez le développement d'Orléans à l'avenir? Est-ce que vous voyez une ville...
Vous savez, on parle, je crois effectivement que on ne peut pas ne pas voir une ville de 200 000 habitants. Et c'est à peine parler de l'avenir, ça. Une ville de 200 000 habitants à Orléans, ça se produira dans... Nous le verrons, enfin,
oui.
Si vous voulez, dans les 15 ans à venir. C'est donc pas de l'avenir. Ce qu'on peut se demander, c'est si Orléans deviendra une très grande ville ou deviendra un faubourg de Paris. Je pense qu'avec le plan actuel de développement de l'agglomération parisienne au long de la Seine, nos chances sont meilleures pour permettre un développement plus autonome d'Orléans. À ce moment-là, quels seront les effectifs? On ne sait pas. On ne sait pas. Ça dépendra du coefficient d'augmentation naturelle de la population et il est difficile de poursuivre une courbe pour plus de 20 ans.
Mais cette autonomie, c'est important.
Je pense que sur le plan de l'homme, oui, c'est important. C'est plus important sur le plan de l'homme que sur le plan peut-être de l'économie. Je pense, oui. Parce que il est des cités comme des hommes, n'est-ce pas? Celles qui laissent la responsabilité de leur développement à d'autres finissent par perdre le sens des responsabilités. L'autonomie n'est pas forcément le remède ou n'est pas forcément le garant de la prospérité, mais elle est certainement le meilleur ferment du développement humain des individus.
Vous êtes orléanais vous-même?
Pas de naissance, non. Bon, enfin, j'y suis depuis longtemps. Je suis depuis 20 ans.
Oui, depuis 20 ans.
Oui.
Et vous êtes donc très intégré à la vie orléanaise.
Très intégré à la vie orléanaise, oui. Oui. Ça, certainement. C'est une ville très agréable. Ça. Elle est très agréable. Peut-être trop agréable.
Ah oui?
Oui,
okay.
Trop agréable. Et bien parce que on arrive assez rapidement à s'y créer des groupes d'amis de 20-25 personnes vivant dans des conditions qui ne sont pas toujours identiques, bien sûr, mais qui paraissent être toujours assez agréables du fait d'un climat modéré, d'une lumière qu'on aime, d'un cadre, la campagne est proche de la ville. Nous ne sommes pas encore démesurés, vous comprenez, il y a un côté, mais tout le monde se connaît.
Oui.
Tout le monde se connaît. Les affaires se traitent entre gens qui se connaissent, qui s'apprécient. Ça va d'ailleurs beaucoup mieux, c'est d'ailleurs beaucoup plus facile. Et alors ceci, n'est-ce pas, ne permet pas aux étrangers qui arrivent de s'intégrer immédiatement. Le jour où ils auront percé une de ces croûtes qui isole les divers éléments les uns des autres, ils y sont eux-mêmes très heureux. Mais entre-temps, ils ont l'impression de naviguer dans une espèce de vide entre des îlots bien fermés. C'est un petit peu ennuyeux, ça.
Vous trouvez qu'Orléans est très divisé de ce point de vue. Il y a de...
Divisé, on pourrait penser qu'il y a des oppositions, non?
Oui.
Compartimenté peut-être.
Compartimenté.
Oui.
Socialement.
C'est pas. Si vous dites socialement, on pourrait penser à une ségrégation. Non, pas socialement. C'est des petits îlots, des gens qui se connaissent, qui se reçoivent. Et puis alors, on reste très casanier. On reste beaucoup chez soi.
Vous avez parlé des intérêts de l'homme. Est-ce que vous voudriez nous dire ce que vous entendez par le mot que vous avez utilisé, expansion économique? Quel est le but de l'expansion économique?
Eh bien, le but de l'expansion économique, c'est d'assurer évidemment l'emploi de tout le monde, n'est-ce pas, dans les meilleures conditions. Et tout en ne prenant pas de retard sur les progrès scientifiques, techniques, de l'environnement, aussi bien français qu'européen. Donc ça, une expansion suppose à la fois, n'est-ce pas, un effort dans la production, un effort dans la qualité, un effort dans les prix, un effort dans la recherche, n'est-ce pas. L'expansion se crée certainement difficilement.
Pour avoir une question que vous aviez déjà abordée, est-ce que pour quelqu'un, parce que vous venez de l'extérieur, est-ce que vous pourriez décrire un peu aux Anglais, les Orléanais plus systématiquement, d'après vous, quelles sont les qualités principales et éventuellement les défauts principaux, enfin, des Orléanais?
La qualité principale et les défauts principaux, je ne sais pas, il y a un cliché, on dit que l'Orléanais, on l'appelle un guépin. Alors ça, c'est peut-être un petit défaut. On l'appelle un guépin parce que la guêpe pique, n'est-ce pas? Et il paraît qu'il aurait l'esprit assez caustique et qui serait une humeur assez piquante. Mais étant regardé moi-même, je ne peux pas savoir si je suis oui ou non une mauvaise langue. Hein. Bon, ben, il est certain que, pour commencer par les défauts, l'Orléanais n'est pas méchant, mais enfin, il aime bien s'amuser des petits travers, ou de ce qu'il juge, des petits travers, des petites choses comme ça. Et pour des gens qui arrivent de l'extérieur, on peut quelquefois se trouver gêné ou même outré de certaines remarques, certaines, qui ne sont que des taquineries, ça va pas loin. Autrement, ceci dit, comme qualité, je crois que l'Orléanais est sérieux, est travailleur, hein, que ses ascendances tirées de l'agriculture ou du travail de la terre en font un homme assez courageux, assez méthodique. La main-d'œuvre d'ailleurs industrielle est jugée comme bonne. Elle n'a pas la rapidité de la main-d'œuvre parisienne, mais ça. C'est comme ça. Et puis toute la France est pareille. Hein? Et les industriels qui arrivent ici sont en général très satisfaits de la main-d'œuvre. Et l'Orléanais, pour peu qu'on lui explique. Très bien. Non, je pense pas qu'il ait ni des qualités exceptionnelles, ni des défauts excessifs. C'est un homme moyen, qui est sans histoire et qui aime être sans histoire. Il n'y a jamais. Les passions ici ne sont pas violentes.
Est-ce que vous croyez que les différentes catégories de la population ont le même genre de qualité de défaut, ou est-ce que vous voyez des différences?
À peu près, oui. Oh. Oh oui. Oh oui, je crois à peu près. À peu près. À peu près. Alors, évidemment, suivant que l'Orléanais est issu de la Beauce ou qu'il est issu de la Sologne, il est possible que son caractère soit un petit peu différent, d'abord physiquement, sur le plan physique. Oui. Ceux qui sont issus de la Beauce se rapprochent plus d'une population nordique, ceux qui sont issus de Sologne se rapprochent certainement plus d'une population méridionale, du centre, sur le plan physique. Eh bien, ça influe certainement, oui, ça doit tout de même influer sur la mentalité.
La dernière fois, je crois que vous nous avez dit qu'il manque ici de cadres à l'UFC.
Oui, si je vous le répète, oui. Il manque d'emplois de cadres.
Oui. Est-ce que vous voudriez me dire ce que c'est qu'un cadre?
Ben, un cadre, c'est essentiellement un homme qui a une responsabilité sur le plan technique et sur le plan de l'encadrement, c'est-à-dire qui a sous ses ordres une équipe grosse, moyenne ou petite, l'homme à diriger et à faire travailler. En même temps, pour avoir les qualités nécessaires, le cadre doit avoir une curiosité, il doit avoir des qualités supérieures, point de vue curiosité d'esprit, point de vue ascendant également, point de vue caractère.
Est-ce qu'il est d'une origine sociale spécifique?
Non. Non. Non, évidemment, vous savez qu'on parle beaucoup de démocratisation de l'enseignement. Les gens qui vous disent que ça n'a pas réussi, d'autres que ça a réussi. Je crois que, d'ailleurs, avec l'amélioration des salaires, il s'est produit un certain nivellement, si vous voulez, et que dans bien des cas, c'est pas que la position de cadre est fermée aux ouvriers, c'est que l'ouvrier ne veut pas devenir cadre, ne voudrait pas devenir cadre. Je vais vous citer le cas d'un menuisier que j'emploie cette semaine, et comment c'est âgé, je lui disais, bien, puisque vous travaillez avec votre fils, c'est vous qui êtes malade, c'est lui qui a votre santé, alors je ne comprends pas, donnez-lui votre affaire et vous serez son employé. Comme ça, vous bénéficierez de la sécurité sociale. Lui ne l'aura plus, mais puisqu'il est en bonne santé, il n'en a pas besoin. Ah, mais dit monsieur, mais bien sûr, ce serait la solution. Il ne veut pas être patron. Il ne voulait pas de soucis. Je lui ai dit, vous comprenez être patron, ben, c'est le soir chez soi, faire des devis, préparer des plans. Ben, lui, il fait partie de la société de musique. Il préfère aller faire de la musique et il ne veut pas être patron. Je ne veux pas juger, je ne sais pas du tout s'il a raison ou tort, ce garçon. Après tout, il n'a peut-être pas tort. Parce que comme patron, souvent, on ne gagne pas plus et on se donne plus de mal que quand on ne l'est pas. Puis en tout cas, on a beaucoup plus de casse-tête, de responsabilité. Enfin, il faut reconnaître que sur le développement de l'homme, eh bien, le fait de ne pas vouloir être patron n'est pas une solution enrichissante. Je crois maintenant que on peut dire que la plupart des carrières sont ouvertes à tout le monde, mais que peut-être ils jouent certaines lois d'atavisme qui font que un enfant qui naît dans une certaine profession est plus apte à embrasser celle-là qu'une autre, quelle que soit la
profession. Peut-être de naître dans une certaine famille.
Bon, je le pense, je sais pas, je pense. De vivre dans une certaine ambiance, on est mieux préparé à rester dans cette ambiance, quitte à s'élever à l'intérieur de cette ambiance, plutôt que de brutalement d'être transplanté d'un milieu dans un autre, comme une plante.
Vous pensez qu'à propos de la société organaise, on puisse parler de classe sociale?
Des classes sociales. Il y a bien des formes de hiérarchie. Vous savez la hiérarchie de l'argent. Vous avez la hiérarchie des traditions familiales. Vous avez la hiérarchie des métiers, vous avez la hiérarchie des fonctions, et toutes ces hiérarchies s'imbriquent, s'interpénètrent, et même avec l'électronique, je ne sais pas si on pourrait classifier socialement une société en fonction des éléments de chacune des hiérarchies. Alors, qu'est-ce qu'on entend par classe? Tout le monde parle de ça, puis au fond...
Justement, je crois que pour les Anglais, c'est...
Tout le monde parle de ça, les classes sociales, on parle même de la lutte des classes. Tout ça, mais... À quel rang peut-on placer ce qu'on appelle un OS1 ou un OS2, hein, par rapport à un conducteur de tracteur dans une ferme? Théoriquement, entre deux, alors si on adopte ces questions de classe qui me paraissent une notion très primaire, il y en a un qui est au-dessus de l'autre. Lequel? On n'en sait rien. Pierre sera peut-être au-dessus de Paul, parce qu'il sera moins équilibré sur le plan physique, intellectuel et moral. Mais c'est pas celui qui est conducteur de tracteur qui sera au-dessus de l'OS, ou l'OS automatiquement. Alors, dans ces conditions-là, comment parler de classe sociale? Alors, évidemment, il y a tout de même des gens qui sont dits tenir, comme on dit, au-dessus du pavé. Ça, d'abord, ça ne dure pas, puis ensuite...
Où est-ce que vous vous placeriez vous-même?
Moi?
Dans la hiérarchie?
Si. Si. Suivant ce que je fais. Si.
Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes venu ici, enfin, votre rôle que vous jouez comme secrétaire général adjoint, vous ne l'avez pas toujours joué?
Non, pas toujours, parce que j'étais dans l'armée.
Dans l'armée?
Oui. Alors j'ai quitté l'armée en 1946, j'avais fait Saint-Cyr et j'ai quitté l'armée en 1946. J'avais essayé à diverses choses de vie civile. J'ai eu, comme beaucoup de gens, le désir de faire quelque chose par moi-même, et puis je me suis aperçu que la position de salarié n'était pas dans les plus mauvaises. Alors maintenant je suis salarié de la chambre de commerce, où je m'occupe d'intérêts généraux qui sont très intéressants. C'est un métier très intéressant. J'y suis depuis 15 ans maintenant.
15 ans?
Oui.
Donc vous avez suivi le développement d'Orléans enfin,
oui, j'ai suivi le développement d'Orléans une période très intéressante. Oui. Vraiment une période de mutation qui n'est pas terminée.
Mutation de quel état? Enfin, vous
nous
avez parlé
mutation d'abord dans les effectifs, mutation dans les structures, et évidemment, mutation dans le développement des communes suburbaines par rapport à Orléans, qui a été un phénomène très intéressant à suivre. Alors, passer du stade de l'agriculture et de l'artisanat au stade de l'agriculture et de l'industrie. Ça a vraiment, en 15 ans, on a vu une transformation considérable.
Vous êtes économiste de formation?
Non, je vous ai dit, j'ai fait Saint-Cyr.
Oui, mais enfin, on ne fait pas en France des études
si,
à l'intérieur du cadre militaire qui sont économiques.
Maintenant, si. Maintenant, je crois que les jeunes sont préparés, n'est-ce pas, ont un éventail d'études beaucoup plus large que celui qui était le nôtre. Et puis, alors, il y a des formations d'économistes en France. Il y a des licences de sciences économiques.
Oui.
Alors, moi, je suis un petit peu autodidacte.
Ah oui.
Puisque j'ai fait autre chose avant.
Est-ce que vous croyez que maintenant l'enseignement devrait s'occuper peut-être plus de...
Il le fait. Je crois qu'effectivement, il y a maintenant dans l'enseignement des secteurs où on étudie les statistiques, l'économie, de façon très approfondie.
Le système d'enseignement en général, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, justement, j'aimerais mieux que vous vous interrogiez quelqu'un de plus calé que moi, parce que, notamment à l'université, vous avez à l'université des gens prestigieux, la personne directeur Antoine, qui n'est peut-être qu'à maintenant beaucoup d'autres choses à faire.
Mais peut-être aussi vous avez vous-même des enfants qui...
Mes enfants, maintenant, ont fini leurs études, pratiquement, j'en ai un qui entend faculté de médecine l'année prochaine, voyez-vous, c'est le dernier.
Ah oui.
C'est le dernier. Alors je suis pas très apte à vous donner vraiment des idées très générales sur cette.
Mais en tant que parent.
En tant que parent, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vu pendant 15 ans un bouleversement perpétuel des programmes. Si bien qu'à la fin, personne ne savait plus ce qu'un enfant avait à faire. Et que si on avait changé un petit peu moins, ça aurait sans doute mieux valu. Et qu'à force d'analyser le problème de l'instruction et de pousser très très loin les différentes classifications, on a multiplié le nombre des préparations, ce qui, à mon point de vue, aurait tendu à recréer ce qu'on appelait autrefois le bachotage, au détriment d'une formation de réflexion et d'équilibre. Voilà. Alors, vous me demandez une critique, je vous la fais telle que je la pense.
Oui, je vous remercie.
Elle est peut-être un peu sévère, mais enfin, nous, c'est ce que j'en pense en tant que parents, si vous voulez.
Est-ce que, pour revenir au problème économique, est-ce que vous pensez que les syndicats jouent un rôle intéressant sur le plan économique? Est-ce que vous pensez qu'ils ont que leur action a des conséquences néfastes ou bien plutôt favorables pour l'économie?
Non, je pense que les syndicats sont nécessaires. Et qu'il est souhaitable que les salariés prennent le plus rapidement possible de la réalité de l'ambiance économique à laquelle ils contribuent. Et je dis bien de la réalité. Et de façon à, si vous voulez, sortir du domaine de la contestation pour entrer dans le domaine de la construction réaliste d'un monde nouveau.
Depuis que les Anglais sont ici, ils entendent tout le temps parler de participation. Est-ce que vous pourriez le...
Ah oui, ça c'est difficile. Bien sûr, on parle beaucoup de participation. Seulement, pour que la participation soit effective, il faudrait que ce soit une participation aussi bien aux bénéfices qu'aux risques. Et il ne semble pas justement que les syndicats soient très très disposés à assumer des responsabilités, de véritables responsabilités, soucieux qu'ils sont de ne pas encourir le risque de faire des erreurs d'administration qui les couperaient de leurs syndiqués, hein, leurs participants, et puis également du fait qu'ils n'auraient probablement pas les réserves nécessaires pour couvrir des risques économiques. Ce qui serait souhaitable, n'est-ce pas, c'est que ces syndicats se servent de leur obédience pour préparer leurs membres à une participation future, n'est-ce pas, en les rendant conscients de ce qu'est l'économie en général et ce qu'est l'économie d'une affaire, de l'affaire dans laquelle ils vivent, de façon à ce que ces gens ne soient pas prêts à scier l'arbre sur la branche sur laquelle ils sont assis. Et évidemment, on me parlait d'une affaire anglaise implantée en France hier, affaire qui marche très bien, qui fait partie du groupe Burma, British Petroleum. Et à l'heure, le directeur général est venu en France, a rassemblé tout le monde sans distinction. A montré la vigueur de cette affaire et les gros bénéfices qu'elle avait fait sur le plan mondial. Il venait de refuser une augmentation.
Parce que quelquefois, on nous a parlé de SMO comme étant un mot pour apaiser les.
Ah oui, c'est un mot électoral. Hein, ça.
Oui, c'est ça, comme à l'autre.
Au point actuel, il est possible que ce ne soit ça parce qu'il y a un manque de préparation.
Sur un plan que vous connaissez sans doute très bien, comité d'expansion régionale et CODER, est-ce que enfin il y a interaction entre les deux?
Oui, certainement, oui.
Est-ce que vous pourriez nous dire brièvement quelle est la différence pour maintenant entre les deux?
Bien, les comités d'expansion régionaux sont de création plus ancienne que les comités de développement régional. Ils sont également de formation privée, En ce sens qu'il n'y a pas dans leur sein de membres de l'administration, quoique les membres de l'administration soient tenus au courant de leurs activités et soient invités, bien sûr, à participer au débat et à les éclairer. Les comités régionaux de l'expansion font surtout des études, des statistiques, des choses, et travaillent en liaison étroite avec les comités de développement régionaux, qui sont des organismes, en somme, sous les paritaires, composés à la fois de représentants de l'industrie et du commerce, enfin des activités privées, et de représentants de l'administration étant eux-mêmes placés sous la direction effective des préfets régionaux. Alors, actuellement, dans les mois qui vont venir, vous allez assister certainement à certains bouleversements. Parce que aussi bien les CODER que le Sénat, que le Conseil économique vont être l'objet de réformes qui, je crois, va fusionner tous ces organismes dans un seul organisme qui sera composé à la fois probablement de membres élus et de membres nommés. C'est probable. On ne sait pas.
On nous a dit que le syndicat reproche au CODER qu'il y ait en quelque sorte une double représentation du patronat là-dedans, qu'il y a une représentation cachée parce que le préfet peut ou a le droit de nommer certaines proportions de personnalités qui sont généralement des patrons. Qu'est-ce que vous en pensez?
Pas très bien. J'ai pas entendu dire ça dans la région. Ça dépend. Il est certain que le préfet doit nommer des gens qui s'intéressent aux questions économiques, qui sont capables de les comprendre, et il les choisit là où ils sont. Si les syndicats n'ont pas su justement former leurs membres à ces disciplines, eh bien, il est certain. Et s'ils ne s'attachent pas à ça, il est certain qu'ils se verront évincer des assemblées qui auront des responsabilités en matière économique. Si au contraire, ils savent former leurs membres aux réalités de la vie économique, eh bien c'est dans leur sein que les préfets pourront choisir plus de membres pour s'entourer de leurs conseils. Ça, je crois que c'est une question d'homme, ça.
Vous-même, vous êtes membre du comité d'expansion du CODER?
Ah, moi j'assure le secrétariat, mais le comité d'expansion départemental.
Oui.
Départemental, pas régional. Oui, vous voyez, on tourne toujours autour de la personnalité de l'individu, et c'est pourquoi je vous disais que j'attachais tellement d'importance à une espèce d'autonomie orléanaise qui justement permette de développer le nombre des élites, si vous voulez, de quelque horizon qu'elle soit, sur Orléans, au lieu de ne laisser à Orléans que se développer la présence de gens qui sont irresponsables et par conséquent sur lesquels on ne peut pas s'appuyer pour une direction. Okay.
Question de l'homme qui est la plus fondamentale.
C'est là qu'on y revient toujours. Oui, c'est l'homme qui est fondamental.
Vous semblez avoir une conviction très profonde.
De ça, je pense comme tout le monde. Oui. Vous savez, au bout d'un certain âge, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui compte. C'est ça. Et que sans homme, on ne fait rien. D'ailleurs, personne ne peut rien faire tout seul.
Je pense que
je vous en prie, que l'on est toujours content de voir des gens qui cherchent, qui... Puis peut-être qu'un jour, nous aussi, on aura besoin de vous.
Nous espérons. Nous espérons.
Vous aurez achevé ce cycle d'études. C'est très intéressant que, quand vous l'aurez achevé, quand vous serez capable de faire une synthèse, ce serait très gentil à vous de venir nous revoir et de nous proposer, par exemple, de faire un petit exposé devant un conseil de gens qui seraient contents d'entendre votre témoignage, la façon dont vous avez travaillé.
Une comparaison peut-être entre les villes de province anglaises
les méthodes, les hommes, enfin, il y a mille choses, n'est-ce pas, qui seraient extrêmement intéressantes.
Une des choses qui serait intéressante, c'est s'il y avait possibilité de réunir un petit groupe de personnalités comme vous pour une discussion.
Quand
est-ce qu'il y a des occasions où vous réunissez avec un groupe?
Mais ce ne serait pas du tout impossible. Seulement, je pense qu'il faudrait que ce soit préparé, voyez-vous.
Oh, oui.
Il faudrait que vous ayez bien mis sur le papier ce qui vous intéresse, ce que vous voulez demander, le thème, si vous voulez.
Oui. Et on avait pensé à ces sortes de discussions préparées, et aussi à enregistrer là où on aurait la permission. Peut-être des discussions qui auraient lieu si nous étions là ou si nous étions pas là. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, par exemple, des réunions ou des meetings, des publics?
Oui, à public.
Enfin, ou qui ne seraient pas. Enfin.
Je ne sais pas. Il doit y en avoir. Je ne suis pas moi-même, parce que vous n'allez probablement pas vous contenter d'une enquête auprès du service économique. Vous allez. En ce qui concerne l'économie, je serais très volontiers que quand vous restez là combien de temps?
Ici, la première quinzaine de septembre, mais nous allons revenir à Pâques.
Mais vous reviendrez à Pâques?
Oui, c'est bon. Ça. Monsieur Dallier sera ici.
Eh bien, à Pâques, on pourrait peut-être organiser une rencontre entre vous-même, enfin, toutes les personnes qui auront travaillé à cette affaire, qui auront des conclusions à apporter, n'est-ce pas, à faire connaître. Et, suivant le thème choisi, un groupe de 15-20 personnes qu'on réunirait ici, par exemple, et établirait une libre discussion entre... Je crois que ça pourrait être extrêmement intéressant. Je pense que, justement, le comité mise en valeur économique, dont j'assure le secrétariat, avec M. Amos pour président, serait très désireux de vous aider là et de vous fournir un auditoire et en même temps de discuter avec vous.
Oui.
À Pâques, on pourrait faire ça. Là, vous auriez fait vos comparaisons.
Oui.
Alors, c'est très volontiers qu'on vous recevrait ce moment-là.
Merci beaucoup. On se remettra en contact.
Eh bien, oui, c'est ça. J'ai oublié de vous remercier de votre 4e âme.
Oh, vous êtes très gentil. J'espère au moins que vous pensez du contenu.
Très! Ah, tout à fait.
Ah bon? Alors, merci beaucoup.
Tout à fait. Et les sentiments étaient encore plus convenables. Je vous en remercie.
Bon. Je ne sais pas si on pourrait. Enfin, vous disposez encore de quelques minutes.
Si vous voulez.
C'est pour une chose, vous êtes entièrement libre de refuser, évidemment, mais ça nous intéresse d'avoir sur les personnes que nous interrogeons certains détails personnels enregistrés sur bande ou non, comme vous voulez. Est-ce que vous acceptez?
Moi, j'ai rien de caché, vous savez.
Alors,
qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous allez m'interroger, toujours le lieu et date de naissance, etc.
C'est ça, oui. Alors, on s'intéresse au quartier où vous habitez, d'abord.
Bon, je peux vous dire que j'ai dépassé le demi-siècle.
Pardon? Que vous avez dépassé le demi-siècle?
Oui, j'ai dépassé le demi-siècle. Et que j'habite à Orléans, 28 rue de la Bretonnerie.
Ah oui. Et vous avez dit que vous n'êtes pas orléanais.
De naissance.
De naissance.
Parce que je suis d'Eure-et-Loire, je ne suis pas bien loin.
Oui. Et votre famille
est également d'Eure-et-Loire.
Oui.
Et orléanaise à la fois.
Et votre père aussi était militaire?
Non, pas du tout. Pas du tout. Il était, comment, je ne sais pas comment vous dire, comment on appelle ça en France, si vous voulez, le monsieur qui vit à la campagne, dans une grande maison, sans grande activité.
Oui. Et vous êtes d'une grande famille, c'est-à-dire vous avez beaucoup de...
Non, j'avais deux frères.
Deux frères,
l'un a été tué à la guerre, l'autre était forestier, a été très blessé à la guerre, et moi j'ai été blessé à la guerre, et j'étais officier aussi, c'était toute la famille.
On aimerait revenir, vous demander vos souvenirs de ces
jours. Ah, pas grand souvenir, c'est pas beaucoup de souvenirs.
Et vous avez dit que vous avez des enfants,
ils
sont déjà adultes.
Ah oui, j'ai cinq enfants.
Cinq enfants,
et le dernier entre en faculté de médecine. Au mois de, je ne sais pas quand.
Oui, effectivement, il faut attendre.
Pour vous dire la date
la
meilleure.
Oui. Je suppose que vous avez l'intention de rester à Orléans, non?
Eh bien, oui, j'ai l'intention de rester à Orléans, mais encore tout le temps de mon activité. Puis après, je repartirai probablement en Eure-et-Loire.
Ah oui.
À la campagne, pour prendre ma retraite à la campagne, bien sûr.
Votre éducation, vous avez dit déjà, Saint-Cyr, mais avant Saint-Cyr.
Ben, vous savez, on entre à Saint-Cyr assez jeune. Alors, avant Saint-Cyr, eh bien, j'ai fait mes études à Chartres, puis à l'école Sainte-Geneviève à Versailles, et puis Saint-Cyr, et puis...
vous étiez donc militaire, et ensuite... Vous êtes venu à la Chambre des Commerces.
Ah non, ensuite, après, j'ai quitté l'armée en 1946. Et après quoi, je suis entré dans la vie civile, dans une société de fabrication de machines agricoles, les établissements Rivière-Casanis ici, que j'ai quitté pour créer une affaire de travaux publics que j'ai abandonnée à 4 ans après. Trouvant comme le fils du bon menuisier, que ma foi, la position de salarié pouvait être moins dangereuse que celle de patron.
Des questions, sur un plan moins professionnel que pour vos loisirs, si vous en avez, si vous disposez de quelques loisirs. Quels sont les journaux que vous estimez
Quels sont les journaux que je lis? Ben voilà, si on avait le courage de tout lire, on serait très calé, vous savez.
Oui.
Alors, entre le journal local, le journal Match comme journal hebdomadaire, Les Échos comme journal économique, La France catholique comme journal hebdomadaire. Très bien fait aussi sur le plan économique et social. Qu'est-ce que je lis encore aujourd'hui? Il y a beaucoup d'autres. C'est à peu près tout. Ça me fait 4 journaux par jour, ça peut aller. Oui.
Et du point de vue culturel, vous trouvez qu'Orléans a des traditions ou des soirées musicales qui vous intéressent?
Oui, mais si on allait à tout ce qui est offert à Orléans, on pourrait très bien avoir une vie intellectuelle seulement. On se plaint beaucoup qu'il n'y a rien, et quand il y a quelque chose, on n'y va pas.
Ah bon. Et vous?
C'est pareil.
Vous n'y allez pas.
Oh si,
vous allez à Paris, peut-être?
Mais non, jamais.
Non,
jamais.
Non,
je m'ennuie à Paris, non. C'est... Voir tous ces gens qui courent et qui sont excités, moi ça va ça.
Ah oui.
Non, je les plains beaucoup, les Parisiens, et j'ai pas du tout envie d'y aller.
Vous avez mentionné la France catholique, c'est-à-dire que vous êtes catholique.
Ah oui.
Oui. Et je crois que c'est tout.
Et je crois que c'est tout.
Il y a autre chose. Non.
Alors voilà.
Alors je vous remercie beaucoup.
Oui, il n'y a pas de secret dans tout ça.
Alors.
Eh bien, écoutez, mademoiselle, non, c'est moi qui étais très content de vous revoir. Et je vous dis, j'espère qu'on vous reverra à Pâques. Alors, on pourrait peut-être organiser une réunion, alors là où nous profiterions de votre travail et de vos conclusions.
Nous espérons.
C'est très intéressant.
Peut-être de notre point de vue, enfin, de votre point de vue, il serait encore plus intéressant que nous venions faire un discours, un exposé, peut-être vers la fin de l'enquête que va avoir lieu.
Ben oui.
Pâques, c'est le milieu. Il y aura encore un stage plus tard et tout, peut-être l'année après.
Quand vous voudrez, seulement Pâques est en général une date qui est bien choisie. Parce que les gens ont du temps dans à ce moment-là. Après, ce sont les vacances, l'année est terminée. Mais évidemment, les mois d'avril, mai sont très propices pour des réunions comme celle-là. Après, personne. J'en pense à autre chose.
Bon, alors merci.
Eh bien, mademoiselle, je vous en prie.